Bonjour à tous.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime et je suis très content de pouvoir étudier la parole avec vous. On est dans Jean 12 et on va regarder les versets 1 à 11. Merci de garder les Bibles ouvertes parce qu'on va y faire référence tout au long de notre message. Donc c'est à la page 698 si vous avez déjà refermé vos Bibles. C'est page 698. Mais Jonathan a déjà prié, je vais le faire à nouveau parce qu'on a toujours besoin de l'aide de Dieu pour étudier sa parole. Seigneur, je te prie qu'à la lumière de ton œuvre sur la croix, nous puissions t'adorer avec un cœur comme Marie ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Combien seriez-vous prêt à payer pour vivre une année de plus si vous étiez proche de la mort? Combien seriez-vous prêt à payer pour vivre une année de plus si vous étiez proche de la mort? Quelle question bizarre à se poser, plutôt sordide, mais une question qu'un scientifique à Oxford s'est posée lors d'un sondage. C'était une étude en fait pour la sécurité sociale, afin de faire des économies pour pallier aux trous de la sécu. Est-ce qu'on doit investir dans ce médicament ou dans ce médicament? Est-ce que ça vaut le coup de prolonger la vie de 7 personnes malades ou de 7 personnes âgées? C'est une triste réalité, mais malheureusement, c'est le monde dans lequel nous vivons. Le monde fonctionne comme ça. Comment peut-on évaluer le prix d'une vie? La vie humaine est tellement précieuse. Généralement, on se rend compte beaucoup trop tard de la valeur de la vie. C'est en général quand les gens disparaissent qu'on se rend compte à quel point la vie est précieuse. Quand on est jeune, nous sommes aveuglés par la vie. On pense qu'elle est illimitée, on pense qu'elle ne vaut pas grand-chose. On aime prendre des risques, on aime jouer avec les limites. On pense qu'elle est infinie. Mais on acquiert une toute autre perspective quand on vieillit. Face à la mort, la valeur de la vie prend tout son sens. Malheureusement, la mort vient rompre la vie sans demander notre permission. Marie et Marthe ont fait cette expérience avec Lazare. Mais lorsque Jésus a ressuscité Lazare, elles ont toutes les deux pris conscience que ce que Jésus venait de faire était d'une valeur inestimable. Elles ont vu la gloire du Fils de Dieu en face. Dans le chapitre 12, Jésus arrive à la fin de son ministère public. Nous entamons en fait une nouvelle étape où Jésus se dirige vers la croix pour s'offrir comme un sacrifice. Et donc dans Jean 12, dans notre passage, on va se poser la question suivante. Quelle est la valeur de la mort de Jésus? À quoi est-ce qu'elle a bien pu servir? Pour Marie, l'œuvre de Jésus est d'une valeur inestimable. Pour Judas, en revanche, Jésus ne vaut pas plus que quelques pièces d'argent. Est-ce qu'un homme cloué sur une croix peut vraiment changer le cours de l'histoire de l'humanité? Est-ce qu'il peut vraiment changer notre vie? Ce matin, j'aimerais que nous puissions saisir la valeur extraordinaire de Jésus-Christ et que notre réponse soit l'adoration en suivant l'exemple de Marie. En fait, le programme pour ce matin se divise en deux parties. Dans un premier point, on va voir le sacrifice inestimable de Jésus-Christ. Et dans un second point, on va voir que Jésus mérite notre adoration entière. Commençons avec le premier point, on va regarder les versets 1 à 2. Jésus va voir Lazare à Béthanie. Il s'agit du Lazare qui a été ressuscité des morts au chapitre qui précède. Au verset 9, regardez au chapitre 12, au verset 9, « Lazare est devenu un emblème national qui va soulever les foules. Tout le monde souhaite le voir. » Mais, bizarrement, dans les versets 1 à 2, pas un mot ne sort de sa bouche. En tant que lecteur, on a franchement envie de connaître son expérience, envie de lui poser des questions. Alors, comment c'était de mourir et de revenir à la vie? Lazare, c'est l'éléphant dans la pièce. Un homme ressuscité, ça ne passe pas inaperçu. Et en plus de ça, Lazare, c'est un homme comme nous qui a goûté par avance à la vie après la mort. Mais bizarrement, Jean ne voit aucun intérêt à le faire parler. Les projecteurs sont braqués sur celui qui donne la vie, Jésus-Christ. Et Marie, Marthe et Lazare préparent un festin en son honneur. Au verset 3, Marie fait quelque chose d'impertinent à table. En tout cas, ça a l'air impertinent en apparence. Alors que Jésus est à table, elle lui verse du parfum sur ses pieds. Cet acte aurait vraiment choqué à l'époque. Mais Jean va nous dévoiler que Marie a fait un acte d'adoration extravagant et propice dans le contexte du ministère de Jésus. Elle sort ce qu'elle a de plus cher, un parfum précieux qu'elle a gardé spécialement pour l'occasion. Il s'agit d'un produit luxueux, un parfum d'une valeur approximative de 9000 euros, soit une année entière de salaire. À ce prix-là, vous pourriez vous acheter le parfum numéro 1 de Clive Christian à 10 000 euros le litre, à base de cerises, de santal des Indes, de réglisse, de vanille. Marie verse un demi-litre de ce parfum pour embaumer Jésus. Marie ne compte pas. Elle montre une générosité non calculée, à tel point que l'arôme du parfum de nard remplit toute la maison. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour mériter ça? Dans le prologue de Jean au chapitre 1, Jean nous fait faire un retour en arrière jusqu'à la Genèse en utilisant l'expression « au commencement, la parole ». Il dévoile que Jésus est la parole indispensable par qui tout a été fait et en qui se trouve la vie. Il était là avec Dieu avant la fondation du monde. Et Lazare est une illustration vivante de la vie en abondance. C'est Jésus qui lui a redonné la vie. C'est lui qui offre cette vie en abondance avec tous ceux qui se confient en lui. Jésus-Christ est la parole créatrice de la vie. En face de nous, nous avons la parole créatrice de la vie. Et donc, la réponse de Marie est tout à fait logique. Elle adore celui qui donne la vie. De bon cœur, au verset 3, elle verse abondamment le parfum sur les pieds de Jésus. Celui qui a une foi authentique adore Jésus d'une façon extravagante. De notre côté, en 2016, nous avons une révélation beaucoup plus complète que Marie. Elle a adoré Jésus avant qu'il meure, avant qu'il soit sacrifié sur la croix. Elle a versé le parfum le plus cher qu'elle avait. Mais de notre côté, nous avons vu la croix, nous avons vu la résurrection et plein d'autres choses encore. Qu'en est-il de notre adoration aujourd'hui? Celui qui a une foi authentique n'hésite pas. Il adore Jésus de façon extravagante. Et en plus de ça, l'adoration extravagante de Marie se caractérise par l'humilité. Regardez sa position au verset 3. Elle se met dans la position la plus humble qui soit, celle d'une esclave. Elle utilise même ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Son dévouement pour Jésus est total. Jésus, dans le chapitre suivant, sera celui qui se mettra aussi dans cette position. La position la plus humble pour laver le pied de ses disciples. Car Jésus-Christ veut absolument servir ses disciples en mourant sur la croix. C'est indispensable. Quel roi serviteur! Celui qui a une foi authentique a toujours une position humble devant Jésus-Christ, car c'est lui, le créateur de la vie, qui donne sa vie pour nous. Tout croyant, de longue date ou pas, va toujours rester dans cette position d'humilité devant Jésus-Christ. Au verset 7, vous verrez que Jésus qualifie l'acte de Marie ainsi. Elle a gardé ce parfum précieux pour le jour de mon ensevelissement. Marie a ainsi l'opportunité de célébrer la mort de Jésus-Christ en avance. Et l'acte est donc propice. Il nous parle de la croix. Contre toute attente, le Créateur de la vie, celui qui a ressuscité Lazare, le roi serviteur qui a été oint de parfum par Marie, C'est lui qui va s'offrir sur la croix comme un sacrifice vivant. Mais qu'est-ce que sa mort va accomplir ? Eh bien, sa mort nous réconcilie avec Dieu le Père. Vous verrez que Jean fait référence à la Pâque. Il y a 10 références dans l'évangile de Jean explicites à la Pâque. Au verset 1 du chapitre 12, il s'agit en fait de la 6e référence. Cette fête de la Pâque, ça commémore l'histoire du peuple israélite dans l'Exode. Esclave en Égypte, Dieu a promis à son peuple une libération et une relation. Dieu a jugé tout le pays d'Égypte, y compris son peuple. Mais il a pourvu un agneau sans tache pour qu'il soit purifié. Le sang de l'agneau devait être étalé sur les contours des portes des maisons et toutes les personnes devaient se réfugier à l'intérieur de la maison pour être protégées d'un jugement terrible. Et ils étaient alors gardés sains et saufs. Ce sacrifice leur a permis, à eux ainsi qu'à de nombreux Égyptiens, d'être épargnés du jugement terrible qui est tombé. Mais Jésus est un sacrifice bien plus excellent. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde définitivement. Et donc le don de la vie de Jésus est inestimable. Son sacrifice a été coûteux. Mais il a fait cela de bon cœur pour des pécheurs perdus comme nous. Donc l'acte d'adoration de Marie est à propos. Marie a vu l'étendue des compassions de Dieu. Et elle a vu l'étendue des compassions par avance. Et logiquement, elle lui donne tout ce qu'elle a. Peut-être que ce matin, vous vous demandez, comment est-ce que je peux adorer Jésus ? Marie a simplement donné ce qu'elle avait de plus précieux. Mais on doit se poser alors la question, quelle est la chose la plus précieuse que nous avons dans nos vies ? Peut-être que c'est ma famille, mes enfants, ma carrière, ma voiture. Peut-être que c'est moi-même qui suis la chose la plus précieuse à mes yeux. Paul nous suggère un acte d'adoration particulier dans Romains 12. Il s'agit d'offrir nos vies à Dieu. Ceux et celles qui ont compris l'étendue des compassions de Dieu sont invités à s'offrir comme des sacrifices vivants, à vivre une vie distinctive en suivant Jésus, le roi serviteur. Donc voici deux façons d'adorer Jésus que j'aimerais proposer ce matin. Comment puis-je montrer mon adoration pour Jésus ? Si on a saisi la valeur inestimable de la croix, eh bien on va forcément en parler. Pas forcément évident quand on est au boulot, en famille ou à l'école. Parfois on est découragé par l'indifférence de notre entourage. On ne sait pas comment s'y prendre pour parler de l'évangile. En fait, tout le monde extérieur nous fait croire qu'aller à l'église pour entendre l'évangile n'a pas vraiment de valeur. On tombe dans le piège de croire que Jésus-Christ n'est pas si profitable que ça. Il n'a pas tant de valeur que ça. Mais souvenons-nous de l'acte de Marie dans ce passage, qui avait compris par avance la valeur inestimable de la croix dans ces moments. Et donc, notre premier acte pour Jésus, c'est évidemment l'adoration. L'adorer pour ce qu'il a fait pour nous. Nous pouvons lui dire avec nos bouches, avec nos cœurs, avec nos actes, que nous l'aimons. Un deuxième acte d'adoration, ce serait de prier pour tous ceux qui ne connaissent pas la valeur inestimable de Jésus. Priez pour votre famille, vos enfants, vos amis, vos collègues, votre patron, qu'il soit aimable ou pas. Beaucoup de chrétiens font déjà ça dans cette église, qui est super, mais persévérons dans cette œuvre de prier pour ceux qui ne connaissent pas la valeur de Jésus. Dans tous les cas, n'hésitons pas à répandre nos vies comme des sacrifices vivants, même si on a l'impression que ça nous coûte très cher. Gardons en tête ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Quand on connaît ses compassions, notre vie est bouleversée et notre réponse, c'est forcément l'adoration. Mais peut-être que ce matin, vous avez du mal à saisir concrètement la valeur de votre foi en Jésus-Christ. Peut-être que vous traversez une saison douloureuse dans votre vie qui amène un certain brouillard dans votre esprit. Et je pense que Jean 11 et 12 nous dit concrètement que notre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ a énormément de valeur. Imaginez le cas de figure suivant. Vous êtes au boulot en train de discuter avec un collègue, un ami, autour d'un café. Votre collègue vous annonce qu'il a une maladie grave, qu'il risque de mourir prochainement. Il ne sait pas pour combien de temps il va continuer à vivre. Face à la mort, il perd espoir. Ce cas de figure ressemble étrangement à celui de Marthe et Marie avec leur frère Lazare. Marie, elle nous montre pourquoi Jésus compte autant pour elle dans les moments les plus pénibles de sa vie. Qu'est-ce que le christianisme nous offre de plus en tant que croyants? Pourquoi est-il si bon de connaître Jésus dans les moments les plus pénibles? Eh bien, la réponse de Marie est simple. Marie connaît un sauveur et un seigneur qui est passé par la mort afin de la détruire, pour rompre tous les effets du péché. La maladie, la mort, l'injustice, la corruption, la médisance. Et on connaît très bien ce monde déchu qui ne tourne pas rond. On a tous envie que ce monde se règle. Eh bien, nous connaissons Jésus-Christ qui vient régler ce monde déchu. Nous avons un espoir inestimable dans ce monde déchu en connaissant Jésus-Christ. Si la mort, la maladie, la corruption, en fait, rythment notre quotidien, on a des occasions, à vrai dire, illimitées de parler de ce que Jésus a fait pour renverser le péché et la mort. Allez-vous mettre en avant, auprès de vos familles, vos collègues, la valeur inestimable de ce que Jésus-Christ a fait? Tout le monde est concerné par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Mais si l'œuvre de Jésus sur la croix n'a aucune valeur à vos yeux, alors évidemment, on ne va pas en parler. On risque même de penser de la même façon que Judas au verset 5. On arrive à notre deuxième point, on va regarder les versets 4 à 8. On a d'abord vu que le sacrifice de Jésus-Christ est inestimable. Maintenant, on va voir qu'on a absolument toutes les raisons d'adorer Jésus. Au verset 5, Judas se pose la question suivante. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. Son souci semble juste à première vue. Judas semble se présenter un peu comme un porte-parole des pauvres au verset 5. Mais Jean, le narrateur, l'identifie au verset 6 comme un voleur. Et donc attention au piège, aux paroles de Judas, parce que sa remarque est trompeuse. Judas se fiche complètement des pauvres. Et peut-être que vous allez être choqué par la remarque de Jésus au verset 8, parce qu'il dit « De toute façon, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Gardons en tête, en lisant ce verset, que la loi de Dieu dans l'Ancien Testament protégeait, défendait les plus vulnérables. Et donc Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre soin des pauvres. Il est simplement en train de dire que dans le contexte de son ministère terrestre, ce n'est pas le bon moment de se soucier des pauvres. Car il y a quelque chose de plus urgent qui est sa mort sur la croix. Mais vous allez me poser la question suivante qui est, est-ce que c'est vraiment si urgent que ça? Est-elle vraiment plus urgente, la croix, que les besoins tangibles et pressants des pauvres? Aux yeux de Jésus, deux choses sont urgentes, deux choses qui découlent l'une de l'autre. Premièrement, Jésus doit mourir pour sauver des hommes et des femmes qui font face à un jugement divin terrible, peu importe leur contexte social. Deuxièmement, Jésus doit mourir pour traiter le cœur du péché, car c'est ce cœur qui est à la source de tant d'injustices et de corruption et de la pauvreté. Peu importe la taille de notre portefeuille, le jugement sera le même pour tous, sans distinction. En fait, le salut ne s'achète pas avec de l'argent. La vie éternelle ne s'achète pas avec de l'argent. La vie s'achète seulement par le sacrifice de Jésus. Qu'on soit SDF, réfugié sur le canal de Saint-Martin, ou employé d'une entreprise à la défense, ou même PDG d'une banque, l'urgence, elle est la même pour tous. Il est urgent de se confier en Jésus, celui qui ôte le péché du monde définitivement. Cette semaine, j'ai croisé des personnes pauvres en allant à la place de la Villette. Je suis passé devant le canal Saint-Martin et c'est difficile en fait, en voyant tous ces tentes de pauvres, de ne pas être ému devant leurs conditions. Mais lorsque Jésus croise des êtres humains comme nous, Jésus nous identifie tous, sans exception, comme les personnes les plus pauvres de ce monde, qu'on soit avec ou sans argent, des personnes dans une situation dramatique qui font face au jugement de Dieu. Et c'est pour cette raison que Jésus s'offre généreusement. Il s'offre pour des personnes qui sont dépourvues, comme nous, qui n'ont absolument rien à offrir à Dieu à part le péché en eux. Et donc Jésus constate ce plus grand besoin. Il s'offre sur la croix et il ôte le péché du monde, la chose que nous voulons tous, par son sacrifice sur la croix. Le chrétien, pardonné, justifié, sanctifié, uni avec Dieu le Père, est alors véritablement riche. Celui qui met sa foi en Jésus-Christ est riche. Et vous voyez que dans ce texte, Judas est à la poursuite du gain. Pour lui, l'argent, c'est sa raison d'être. Il cherche la vie dans l'argent. Il suit Jésus simplement pour en tirer bénéfice. Combien est-ce que je vais pouvoir me faire sur le dos de Jésus ? Judas n'est pas le seul à aimer Jésus, à aimer l'argent, pardon. C'est aussi le cas de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Et le riche n'est pas le seul à aimer l'argent, car le pauvre aussi voudrait plus d'argent pour être plus riche. Aujourd'hui, des magistrats sont prêts à pervertir des jugements sans scrupules pour une somme d'argent. Des politiciens font la même chose pour plus de pouvoir. Des espions sont prêts à vendre des informations secrètes à des pays ennemis pour de l'argent. Les businessmen sont prêts à des transactions douteuses. Même les pasteurs transforment la foi en affaires commerciales. L'homme est connu pour aimer l'argent plus que Dieu. Et plus on a de l'argent, plus on compte. Moins on en a, moins on compte. C'est le triste monde dans lequel nous vivons. L'argent arrive à nous faire croire que c'est la taille de notre portefeuille qui nous donne de la valeur. C'est la taille de notre portefeuille qui nous permet de bien vivre sur Terre. Plus nous avons une grande voiture, plus nous sommes importants, plus notre télé est grande, plus nous sommes influents. Les enjoliveurs de certaines voitures deviennent de plus en plus dorés, procurant un sentiment de puissance, de gloire sur Terre. L'argent arrive à nous faire croire que nous sommes importants, voire invincibles. Le scientifique d'Oxford dont nous avons parlé au début, a constaté que ce sont évidemment les plus riches qui ont le choix de payer plus pour acheter une année de vie en plus. Les plus pauvres, ils n'ont pas ce privilège. Selon ces statistiques, une année de vie en plus coûterait 40 000 euros. C'est pas terrible. Mais heureusement, en tant que chrétien, Jésus a tout payé pour nous sur la croix, bien plus cher qu'une année de vie en plus. Il est mort pour nous donner la vie éternelle, pour qu'on soit en communion avec notre Père, et son œuvre est inestimable. Il offre la vie en abondance. Considérons-nous alors comme très riches en Jésus-Christ et adorez-le en réponse. Il a détruit la mort. Il fait tout le nécessaire une fois pour toutes. Cela à toute personne qui se confie en lui. Son œuvre sur la croix compte plus que tout. Une communion avec Dieu. Il nous assure une vie éternelle aux côtés du Père dans un monde sans médisance, sans violence, sans tristesse, sans trahison, sans corruption. C'est ça que Jésus nous offre. Connaître Jésus vaut plus que l'or. L'or le plus fin et le plus pur. Judas a choisi de servir l'argent. Marie nous montre ce qu'est la foi authentique. Ayant saisi la valeur inestimable de l'œuvre de Jésus sur la croix, elle lui donne tout. Ce matin, est-ce que vous êtes conscient de la valeur inestimable de votre foi en Jésus-Christ ? Est-ce que vous êtes conscient de la valeur inestimable de votre foi en Jésus-Christ ? Si c'est le cas, eh bien vous allez forcément l'adorer comme Marie. On va prier pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre de ton sacrifice sur la croix, qui a tant de valeur et qui nous offre une vie en communion parfaite avec le Père. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à saisir la valeur de ce que tu as fait pour nous ce matin. Et que tu nous pousses à t'adorer de tout notre cœur, comme Marie. Au nom de Jésus. Amen.